Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Voyez votre Esprit, Seigneur, se faire une création nouvelle. Vous renouvellerez la face de la terre. Prions Dieu qui avait daigné envoyer votre Esprit sur ce monde. Donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse ces divines consolations par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi soit-il, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, nous continuons d'avancer dans le traité de la vertu de religion. Et nous en sommes maintenant la seconda secondée, donc deuxième partie de la deuxième partie, la question 89 du jurement. Saint Thomas d'Aquin utilise le mot jurement. En fait, en français actuellement, le terme a un peu changé. On appelle plutôt ça un serment. Donc Saint Thomas parle de jurement, il faut traduire par serment. Mais qu'est-ce que c'est qu'un serment? Quelles sont les différences d'un serment et entre un serment et un vœu? Donc nous allons voir cela maintenant. Donc question 89, vous avez peu de choses sur le polycopier. Polycopier, on en est à la page 104. Donc il n'y a pas grand-chose sur le polycopier avant la question 94, article 3. Donc définition d'un serment ou d'un jurement. Invoquer le témoignage divin en confirmation de ce que l'on dit. Donc, invoquer Dieu en confirmation de ce que je dis. Je dis quelque chose, Dieu m'est témoin que ce que je dis est vrai. Ce qu'on appelle un serment. Dans quel cas un serment est-il moral? Dans quel cas avons-nous le droit de faire des serments? Est-ce que le serment est interdit? Et dans quel cas, etc. Nous allons voir un petit peu tout ça en suivant Saint Thomas d'Aquin. C'est une question de théologie morale sur laquelle je vais aller assez vite. Parce qu'il n'y a pas de difficulté particulière dans ce domaine. Je fais toujours un petit peu comme ça. Lorsqu'il y a des questions relativement secondaires, je vais un peu plus vite pour approfondir davantage les questions les plus importantes. Donc, Saint Thomas donc, se pose la première question à l'article 1 de la question 89. Jurer, est-ce prendre Dieu à témoin? Bon. Il va répondre par l'affirmative. On invoque par le serment le témoignage de Dieu qui ne peut pas mentir et qui sait tout. Alors, soit on invoque simplement le témoignage de Dieu en disant par exemple « Dieu m'en est témoin, je parle devant Dieu, je parle par Dieu » ou dans l'autre, on joint l'imprécation au jugement en appelant sur soi un châtiment. Si ce que l'on dit n'est pas vrai, dire que je meurs si ce que je dis, si ce que je dis n'est pas vrai. Donc on va voir dans quel cas ces serments sont légitimes et licites devant Dieu. Alors la première tentation qu'on a, je pense tous, c'est de dire mais c'est toujours interdit. Non, il n'est pas toujours interdit de faire un jurement, de faire un serment. Il y a même des cas où on a parfaitement le droit de le faire. Par exemple, avant son ordination sacerdotale, le prêtre fait un serment. Il fait le serment qu'on appelle le serment antimoderniste qui a été prévu par le pape Saint Pédis. Donc, en 1907, si mes souvenirs sont exacts, c'est en 1907, donc il a, à la suite de sa grande encyclique Pachandi, le pape Saint Pédis a demandé à tous ceux qui allaient être ordonnés prêtres, et même à ceux qui allaient être ordonnés sous-diacres, puis diacres, également à ceux qui allaient être consacrés évêques, de faire le serment anti-moderniste pour bien jurer devant Dieu qu'ils ne sont pas atteints par l'hérésie moderniste. Avant, dans les siècles de foi, ces serments étaient demandés également à tous les professeurs d'université catholique, surtout au directeur supérieur de l'école, de l'université.
C'était en général le jour de l'ouverture des cours. Tous les professeurs se retrouvaient à la chapelle devant le Saint-Sacrement. Souvent l'évêque même était là, c'est quelque chose de très important. Et devant le Saint-Sacrement exposé, les professeurs faisaient le serment de prêcher la vérité de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, évidemment, aujourd'hui, on est habitué à jurer pour tout et pour n'importe quoi. Je ne sais pas pourquoi dans les cours de justice, on continue de demander à ce que les gens disent la vérité, rien que la vérité, toute la vérité, alors que tout le monde sait que les gens mentent comme des charlatans en cours de justice, puisqu'ils n'ont plus aucune crainte de Dieu. Alors voilà ce que dit saint Thomas. Donc il se pose la question, l'article 2 de la question 89. Est-il permis de jurer? Voilà ce qu'il dit. Le jurement est de soi une action licite et honnête. Il procède de la foi d'un Dieu infaillible qui gouverne toutes choses par sa science et sa providence. Toutefois, observons, dit saint Thomas, que ce qui est bon de soi peut devenir nuisible à celui qui n'en use pas comme il faut. Il nuit à l'homme qui en use sans discrétion. Par exemple, il va donner un exemple. Il est bon en soi de recevoir le Sainte-Eucharistie. Et cependant, celui qui la reçoit indignement mange et boit sa propre condamnation. C'est l'enseignement de saint Paul. Et c'est ce qui a lieu par le serment, par le jurement. Il nuit à l'homme qui en use sans discrétion. Donc, s'il y a une raison proportionnée de faire un serment, le serment est parfaitement légitime. Mais s'il n'y a pas de raison de faire un serment, une raison grave et proportionnée de faire un serment, le serment devient inutile, voire même illégitime. Les théologiens enseignent que d'ailleurs que le serment sans nécessité est un péché véniel. Si vous faites un serment d'une chose qui est vraie, attention, il n'y a pas de mensonge, ce que vous dites est vrai, mais sans qu'il y ait une raison proportionnée pour le faire, il y a péché véniel. Par contre, le serment contre la vérité, le parjure donc, ou contre la justice, est un péché mortel. Donc, saint Thomas va citer un proverbe: que votre bouche ne s'accoutume pas au jurement, donc au serment, les chutes y sont fréquentes. Donc, il est dangereux de multiplier les serments quand il n'y a pas une cause proportionnée pour faire ce serment. Alors, trois conditions, nous explique saint Thomas, sont nécessaires pour que le jurement ou le serment soit valide et soit licite. Il faut jurer avec vérité, avec jugement et avec justice. Donc, si le serment est fait sans jugement, ce qu'on appelle un jugement téméraire, un serment téméraire, hein, un serment téméraire, parce qu'on n'a pas réfléchi sérieusement au serment qu'on va faire, et on n'a pas porté un jugement suffisamment stable sur la chose en question avant de faire le serment. C'est donc un serment téméraire. Si on manque à la vérité, c'est un serment qui est faux. Si on pêche du côté de la justice, donc c'est un serment injuste, il est inique ou illicite. Donc un serment inique, un serment qui va contre la vérité, un serment illicite dans ce cas-là, est un péché mortel. Donc, le serment téméraire, mais qui ne va pas contre la vérité, est en général un serment, un péché véniel seulement. Donc, le serment doit être considéré comme un acte de la vertu de religion. C'est pour cela que saint Thomas en parle dans son traité sur la religion. Pourquoi? Parce que c'est invoquer le témoignage divin en confirmation de ce que l'on dit. Ça veut donc dire qu'on s'adresse directement à Dieu. Cela donc regarde directement la vertu de religion. Il appartient à la religion d'honorer Dieu. Donc, par un serment, on honore Dieu parce qu'on prend Dieu à témoin de ce qu'on affirme et ce que l'on dit. Et donc, c'est un acte de la vertu de religion. Donc, est-ce qu'on a le droit, se demande saint Thomas, de désirer le serment et de l'employer fréquemment comme une chose bonne, bonne et utile? J'ai déjà un petit peu répondu à cette question. Lorsqu'il n'y a pas une raison proportionnée pour faire un serment, même si c'est sur une chose vraie, on n'a pas le droit de le faire. Voilà ce que dit saint Thomas. Il faut placer le serment non pas parmi les biens désirables, mais dans la classe des choses nécessaires à la vie de ce monde, et dont on use mal toutes les fois que l'on y a recours sans nécessité. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on fait des serments un petit peu n'importe quand, sans qu'il y ait une raison proportionnelle, c'est un manque de jugement. Un manque de jugement. Et là, on tombe dans les péchés contre la vertu de prudence. Hein? Donc, il cite saint Augustin, quiconque comprend que le serment ne doit pas être rangé parmi les biens, mais parmi les choses nécessaires, s'en éloignera autant que possible et ne le prêtera que dans la nécessité. Et ça, il faut faire attention parce qu'il y a des jeunes, par exemple, qui sont, ou des personnes âgées, des personnes plus âgées, qui sont habituées à faire des serments n'importe quand. Sous prétexte que c'est vrai, ils font des serments. Je vous jure que Dieu me témoigne que, attention, est-ce qu'il y a une raison proportionnée pour faire cela? Plus le serment est utile pour confirmer une assertion, plus il est dangereux quand on l'emploie mal à propos. Pourquoi? Parce qu'on a vite fait de faire des serments qui manquent de jugement, qui manquent de vérité, qui manquent de justice. Déjà expliqué. A-t-on le droit, se demande saint Thomas, l'article 6 de la question 89, a-t-on le droit de jurer par les créatures? Ben, aussi étonnant que ça puisse paraître, la réponse est positive. On a le droit de jurer par les créatures, encore une fois, s'il y a une raison proportionnée. Joseph jura, par exemple, dans l'Ancien Testament, dans le livre de la Genèse, il jura par le salut de Pharaon. Et on en a coutume, par exemple, dans la Sainte Église, de faire des serments sur l'Évangile, par l'Évangile ou par les reliques et par les saints. Il est donc permis de jurer par les créatures. À la fin des exercices de Saint Ignace, de 5 jours, personnellement, je fais toujours la profession de foi, celle qui est demandée au Concile de Trente, au Concile de Vatican I, la même profession de foi qu'on demande par exemple aux protestants qui abandonnent le schisme ou l'hérésie pour rentrer dans l'Église catholique, et tous les retraitants, à la fin de la retraite, viennent devant, après avoir prononcé leur profession de foi complète, eh bien, ils viennent devant le prêtre, posent la main droite sur le livre de l'Évangile, devant le Saint-Sacrement, et font leur serment de garder la foi, et non seulement de garder la foi pour eux, mais de faire tout ce qu'ils peuvent, tout ce qui est en leur pouvoir, pour que les gens dont ils ont la charge gardent aussi cette foi. Voilà, à titre d'exemple, la phrase que le catholique qui fait sa profession de foi, donc du Concile de Trente, du Concile de Vatican I, voilà la phrase qu'il dit au début, il dit « Je, et on donne son nom, je crois avec ferme conviction, fait profession de croire toutes les vérités, chacune des vérités contenues dans le symbole de foi, c'est-à-dire le credo, de la Sainte Église romaine. » Bon, on m'a parfois fait des remarques, les confrères m'ont dit « Mais vous n'avez pas le droit d'exiger un serment en fin de retraite. » Attention, tous les catholiques, quels qu'ils soient, par le baptême, sont tenus, sous peine de péché grave, de professer la foi catholique. Donc à la fin, celui qui fait sa profession de foi place sa main droite sur le livre ouvert des évangiles. En général, j'utilise le missel d'autel, ouvert à la page du dernier évangile, le prologue de Saint Jean, à la fin de la messe. Et on fait le serment suivant à haute voix, c'est quelque chose de public. On donne son nom, je le promets, le jure et m'engage, aussi vrai que Dieu m'assiste et ses saints évangiles de Dieu. C'est un serment. Donc là, on a le droit de le faire. Autre exemple, dans le serment antimoderniste, donc qui date, je croyais que c'était 1907, mais je crois que c'est plutôt 1910 que 1907. L'encyclique Pachandi date de 1907, mais le serment antimoderniste a été placé après par Saint Pie X, 1910. Donc voilà ce que dit la personne qui va faire son serment antimoderniste. Je ne le fais pas personnellement aux retraites, sauf quand j'ai des prêtres, des confrères qui suivent la retraite. Quand j'ai des confrères qui suivent la retraite, à la fin de la retraite, je demande à ces confrères de faire publiquement le serment antimoderniste. Mais pour les laïcs, je demande la profession de foi des conciles de Trente et Concile Vatican I. Donc, dans le serment antimoderniste, donc de Saint Pie X, voilà ce que la personne qui fait ce serment va dire au début de ce serment. Je, donne son nom, embrasse et reçois fermement toutes et chacune des vérités que l'Église, par son magistère inhérent, a définies, affirmées et déclarées, principalement ces chefs de doctrine qui sont dirigés directement contre les erreurs de ce temps. Ensuite, Saint Pie X demande à la personne qui fait le serment antimoderniste de réprouver l'une après l'autre toutes les grandes erreurs des modernistes. À la fin, après avoir dit tout cela, il va dire la chose suivante. Je vais vous lire tout le paragraphe parce que c'est intéressant. Ça va vous comprendre, vous faire comprendre ce que c'est qu'un serment dans ce cas-là. Je professe, à la fin de son serment, voilà la fin du serment antimoderniste. Je professe être complètement indemne de cette erreur des modernistes, prétendant qu'il n'y a dans la tradition sacrée rien de divin, ou ce qui est pire, admettant ce qu'il y a de divin dans un sens panthéiste. De telle sorte qu'il ne reste rien de plus que le fait pur et simple, assimilable aux faits purs et simples de l'histoire. À savoir le fait que des hommes, par leur travail, leur habileté, leur talent, continuent à travers les âges postérieurs l'école inaugurée par le Christ et ses apôtres. Pour conclure, je soutiens donc avec la plus grande fermeté, soutiendrai jusqu'à mon dernier soupir, la foi des pères, sur le critère certain de la vérité qui est, a été et sera toujours dans l'épiscopat transmis par la succession des apôtres. Non pas de telle sorte que cela seul soit soutenu qui peut sembler mieux adapté au degré de culture que comporte l'âge de chacun, mais de telle sorte que la vérité absolue et immuable prêchée dès l'origine par les apôtres ne soit jamais ni crue ni entendue dans un autre sens. Toutes ces choses, je m'engage à les observer fidèlement, intégralement et sincèrement, à les garder inviolablement et à ne jamais m'en écarter, soit en enseignant, soit d'une façon quelconque, par mes paroles et par mes écrits. J'en fais le serment, je le jure, que Dieu me vienne en aide et les saints évangiles de Dieu. Et attention, on demande cela, on fait cela pas simplement pour nous, mais aussi on le fait pour ceux dont nous avons la charge. Je vous lis dans le serment, la profession de foi du Concile de Trente et de Vatican I, qu'on fait en fin de retraite, je vous lis à ce sujet ce qui est dit. Cette vraie foi catholique, donc la main droite sur l'évangile, on fait cela, hein, cette vraie foi catholique, en dehors de laquelle nul ne peut être sauvé, dont je fais actuellement profession, volontairement et sincèrement, je veux, avec l'aide de Dieu, la conserver intègre et inviolable et en faire profession constamment jusqu'à mon dernier soupir et autant qu'il dépendra de moi, veiller à ce que mes subordonnés ou ceux qui relèveront de mon autorité la professent, l'enseignent et la prêchent. Par exemple, vos enfants. Bon, c'est évident, vous ne pouvez pas faire un serment pour vos enfants. Mais vous pouvez au moins faire le serment qu'avec toute la grâce du bon Dieu, vous ferez tout ce qui est possible, tout ce qui est à votre possible pour aider vos enfants à conserver la foi. Et donc, ces serments sont parfaitement légitimes dans ce cas-là. Et non seulement sont légitimes, mais sont une chose bonne et utile. Alors, le serment, ce qu'on appelle le serment imprécatoire, le serment par les créatures, en faisant intervenir une créature, la dévoue au jugement divin. Et c'est de la sorte que l'homme jure par sa tête, par son fils, ou par toute autre chose qui lui est chère. Bon. Jésus-Christ a simplement défendu de jurer par les créatures pour empêcher de leur rendre les honneurs divins. Donc on n'a pas le droit, évidemment, de donner un pouvoir divin à une créature. Mais on a le droit, dans un cas particulier, pour une raison proportionnée, de jurer par les créatures. C'est l'enseignement de saint Thomas d'Aquin. Alors, article 7, a-t-on l'obligation, en conscience, de suivre notre serment? Bon. Alors, toujours pareil, c'est évident que les conditions doivent être là. Si le serment a été fait avec vérité, avec jugement et avec justice. Si ce serment n'est pas téméraire, il n'est pas faux, il n'est ni inique ni illicite, il est évident que nous sommes tenus de remplir nos obligations et nos serments. Saint Thomas d'Aquin va citer Saint Matthieu, chapitre 5, verset 33 dans le Saint-Évangile, « Vous vous acquitterez de vos serments envers le Seigneur. » Cependant, il est évident que si la chose jurée n'est pas au pouvoir de celui qui la promet, le serment faute du jugement requis ne lie pas la conscience. Dans le cas où la réalisation devient impossible par un événement postérieur, on n'est pas tenu d'accomplir son serment. On doit faire seulement ce que l'on peut. Quand l'action, toute possible qu'elle soit, ne doit pas être faite, soit parce qu'elle est mauvaise en elle-même, soit parce qu'elle empêche un plus grand bien, Le serment manque de justice et alors il ne faut pas l'observer à raison de sa mauvaise issue. Donc on a, c'est évident qu'on n'a pas le droit de faire un serment inique. Encore une fois, c'est l'exemple d'Hérode qui a promis de faire ce que la petite danseuse va lui demander. Et donc, quand elle demande, poussée par sa mère, la tête de Saint Jean-Baptiste, Hérode se sent lié par son serment et va assassiner Saint Jean-Baptiste, faire assassiner Saint Jean-Baptiste. Il est évident que dans ce cas-là, il y a faute grave de la part d'Hérode d'avoir suivi un faux serment, un serment inique. Celui qui jure, par exemple, c'est évident, de commettre le mal, pêche, et en faisant le serment et en l'accomplissant. Lorsque le serment a été extorqué par la contrainte, il oblige dans le fort de la conscience à cause du respect dû à Dieu. Bon. Cependant, on verra dans Théologie morale plus tard que dans bien des cas, dans ce cas-là, il est rescindable. C'est-à-dire que si une chose a été faite contre notre volonté, elle peut être déclarée invalide par l'Église. Article 8. L'obligation du serment est-elle plus grande que celle du vœu? Je vous rappelle la différence entre un vœu et un serment. Un vœu, c'est la promesse faite à Dieu d'un bien possible et meilleur. Bon. Le serment, c'est l'invocation de Dieu en confirmation de ce que l'on a dit. Donc, est-ce que le serment est plus important que le vœu? Non, le vœu est plus important. Donc, l'obligation du vœu résulte de la fidélité due à Dieu, laquelle prescrit d'accomplir la promesse qu'on lui a faite. L'obligation du serment provient du respect qui lui est dû aussi, lequel commande de réaliser ce qu'on a promis par son nom. Or, toute infidélité implique irrévérence, mais non réciproquement. Car de toutes les irrévérences, la plus grande est l'infidélité d'un sujet à l'égard de son maître. On voit donc que le vœu est en soi plus obligatoire que le serment, parce que le vœu est plus important que le serment. Alors, saint Thomas continue, il essaie d'analyser tous les points. Le vœu, peut-on dispenser du serment, dit-il. Le vœu est plus obligatoire que le serment. Donc le serment admet la dispense. Puisque l'Église peut avoir dans certains cas le pouvoir de relever un vœu, à plus forte raison, l'Église a-t-elle le pouvoir aussi de relever un serment? Donc, pourquoi? Parce qu'une chose qui est considérée en elle-même ou sous un point de vue général comme honnête et utile peut, dans une circonstance particulière, devenir illicite ou nuisible et cesser par cela même d'être obligatoire. C'est pour cela que l'Église autorise et donne, par exemple à l'évêque, certains pouvoirs de dispense. Donc tout supérieur peut résilier le serment fait par ses subordonnés dans les matières qui relèvent de son autorité. Donc en stricte justice, le père de famille peut annuler le serment de sa fille et le mari celui de sa femme, strictement parlant. Donc les conditions des personnes, dernier article de la question numéro 89, la condition des personnes ou les circonstances du temps peuvent-elles s'opposer au serment? Bon. J'ai expliqué que certains serments, à cause des circonstances, peuvent devenir complètement illicites. Donc, le serment méritant le plus grand respect à cause de Dieu ne l'impose point à deux sortes de personnes. D'abord aux enfants, avant l'âge de puberté, et enfin, on n'impose pas non plus aux parjures, parce qu'on sait que la parole ne vaut rien. On ne doit pas non plus, dit saint Thomas, imposer un serment aux personnes très élevées en dignité, parce que c'est indigne pour eux, dans ce cas-là, de prêter serment, et c'est indigne pour les subordonnés de mettre en doute la parole d'une personne très élevée en dignité. Car ce serait, dit saint Thomas, manquer alors de respect au caractère de la personne élevée en dignité que de révoquer en doute ce qu'elles avancent. Saint Thomas continue de donner certains exemples. Les prêtres, dit-il, selon le droit canonique, ne doivent pas prêter serment pour une cause légère. Ils le peuvent cependant dans la nécessité ou pour une grande utilité, surtout dans les affaires spirituelles. Mais, saint Thomas conclut en disant, à moins d'une grande nécessité, on ne doit pas prêter serment pour des choses temporelles. Bon, on ne prête pas des serments pour des choses temporelles, parce qu'encore une fois, on ne met pas Dieu à l'épreuve pour des choses qui ne sont pas très importantes. Question 90. Donc là, il va y avoir plusieurs petites questions sur lesquelles je vais aller assez vite. Donc la question 90 sur l'adjuration. La question 91 de la louange de Dieu. La question 92, qui est une des plus petites questions de la somme, sur les vices opposés à la religion, en général, et ensuite, nous verrons le culte illégitime, nous verrons l'idolâtrie, la divination et les vaines observances. Donc, ce qui est très important, surtout aujourd'hui, c'est le péché d'idolâtrie, qui est malheureusement extrêmement fréquent. Donc, nous allons voir un petit peu tout ça. Alors, rapidement, question 90, question 91, qui sont des questions un petit peu secondaires, faciles en tout cas, sans problème particulier. Donc, question 90, sur l'adjuration. Est-il permis d'adjurer un homme ? Je vous adjure, par exemple, au nom du Dieu vivant, c'est l'adjuration, par exemple, qu'a fait le grand prêtre devant notre Seigneur. Je vous adjure au nom du Dieu vivant de nous dire si vous êtes le Fils de Dieu. Adjuration. Il est donc permis de conjurer. Donc, nous prions Dieu, pardon, je reprends le texte de saint Thomas. Nous prions Dieu au nom des choses saintes. L'apôtre a conjuré les fidèles au nom de la miséricorde de Dieu. Il est donc permis de conjurer ou d'adjurer un homme. Toujours pareil, à condition qu'il y ait une raison proportionnée. Les supérieurs seuls, en cas de nécessité, peuvent lier leurs inférieurs par une telle adjuration. Bon. Alors, deuxième article de cette question 90, donc sur l'adjuration, est-il permis d'adjurer les démons ? Alors, il faut faire une distinction. En soi, non. Pourquoi ? Parce que l'adjuration est une prière qui implique une certaine bienveillance, une sorte d'amitié, ne doit donc pas être admise vis-à-vis des démons. Mais, dit saint Thomas, il est permis de les adjurer impérativement au nom de Dieu comme des ennemis afin de les empêcher de nuire à nos âmes et à nos corps. C'est le principe de l'exorcisme. Au nom de Dieu, au nom de la Sainte Trinité, je te l'ordonne, sors de cet homme. Jésus-Christ nous a donné évidemment ce pouvoir dans ses paroles. Voici que je vous donne puissance, dit-il aux apôtres, de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la force de l'ennemi. Rien ne vous nuira. Par contre, il faut faire attention de ne pas jamais adjurer un démon pour en apprendre ou pour obtenir quelque chose, parce que ce serait faire alliance avec eux. On ne dialogue pas avec le démon, jamais. On donne un ordre, c'est tout. Donc l'exorciste doit faire très attention de ne pas céder à la curiosité pour essayer de savoir certaines choses par l'entremise du démon. On n'a pas le droit de faire ça. Le Sauveur, en disant à l'un des esprits infernaux dans un miracle qu'il fait par rapport à un démoniaque dans le chapitre 1er de saint Marc, au verset 25, « Tais-toi, dit notre Seigneur au démon, et sors de cet homme. » Et saint Jean Chrysostome fait ainsi remarquer que nous ne devons ni écouter, ni croire le démon, quelque grande vérité qu'il paraisse nous annoncer. C'est pour ça que les exorcismes sont assez dangereux. Il ne faut pas faire n'importe quoi avec les exorcismes et les faire n'importe quand. C'est malheureusement un petit peu une manie chez certains traditionnalistes qui veulent des exorcismes tout le temps. Constamment, on vient nous voir en disant « Monsieur l'abbé, j'ai besoin d'un exorcisme ». Attention, il faut qu'il y ait une raison proportionnée pour faire un exorcisme. Et pour faire le grand exorcisme, il faut l'accord de l'évêque. Bon, moi personnellement, j'ai pourtant presque 40 ans de sacerdoce, je n'ai jamais fait le grand exorcisme. J'ai fait le petit exorcisme de Saint-Michel, petit exorcisme qui est prévu dans le rituel plusieurs fois, mais jamais le grand. Plus de ça, lorsque l'Église autorise le grand exorcisme, avant, les évêques avaient demandé à un vieux moine confiant en sainteté de devenir l'exorciste du diocèse. Et lorsque un exorciste devait opérer pour chasser le démon d'une personne qui était possédée par le démon, il faisait en général 3 jours de jeûne avant l'exorcisme. Il faisait de grosses pénitences et on prenait soin de prendre comme exorciste un homme qui avait beaucoup de sainteté de vie, sainteté personnelle de vie. Donc, attention aux exorcismes. Monseigneur Lefebvre nous disait avec raison, lorsque les gens vous demandent un exorcisme, 99 fois sur 100, ils n'ont pas besoin du grand exorcisme. Parce que ça peut être tout simplement des tentations qu'ils ont du démon à cause des imprudences qu'ils commettent. Il est évident que si je ne prie pas, si je ne fais pas pénitence, le démon va avoir libre accès dans mon âme. Et donc, quand on a quelqu'un qui vous demande un exorcisme, la première chose qu'il faut faire, c'est prier pour la personne et demander à la personne de prier. Est-ce que vous priez, monsieur, madame? Vous prétendez avoir besoin d'exercice. Est-ce que vous priez? Est-ce que vous faites pénitence? Est-ce que vous évitez les occasions prochaines de péché? Est-ce que vous assistez à la Sainte Messe? Je vais offrir la messe pour vous, par exemple. C'est un bon moyen d'éliminer l'influence démoniaque. Il ne faut pas croire qu'il y a systématiquement des cas d'exorcisme. J'ai rencontré énormément de fois dans ma vie des cas de gens qui sont fortement déséquilibrés. Fortement déséquilibrés. Déséquilibre, il y en a malheureusement beaucoup de gens déséquilibrés. Mais ça ne veut pas dire automatiquement qu'il y a des cas d'exorcisme. Et encore une fois, il faut faire attention aux limites des exorcismes et ne pas demander des exorcismes sans qu'il y ait une raison grave qui fasse et qui rende pratiquement certain qu'on est en face d'une puissance maléfique. C'est pas parce que vous avez des grosses tentations contre une telle ou telle vertu que ça veut dire que vous avez besoin de subir un grand exorcisme. Donc, voilà ce que dit saint Thomas. Par rapport au « tout le monde comprend », dit-il, que l'abjuration qui s'adresserait aux créatures irraisonnables, elle-même serait purement vaine. Il n'en est pas de même de celle qui se rapporte au moteur de ces créatures. Celle-ci peut se pratiquer tantôt sous la forme d'une prière adressée directement à Dieu, elle appartient à ceux qui font des miracles par l'invocation divine, tantôt sous la forme d'une contrainte par rapport aux démons, qui se servent des créatures irraisonnables dans le but de nous nuire. Ce dernier mode d'adjuration est employé par l'Église dans les exorcismes pour soustraire ces créatures aux puissances de l'enfer. Donc, adjurer les démons en sollicitant leur secours ou pour essayer de savoir des choses par simple curiosité serait un acte tout à fait illicite. Donc, attention aux limites de ces exorcismes. Par contre, vous avez le droit, en tant que laïc, ceux qui m'écoutent sur Internet, vous avez parfaitement le droit, encore une fois, s'il y a un motif proportionné, de faire par exemple par vous-même le petit exercice de Saint-Michel. Vous prenez de l'eau bénite, vous prenez une croix exorcisée, une croix avec toutes les indulgences qui ont été appliquées par un prêtre sur cette croix, et vous faites votre exorcisme privé de Saint-Michel. Ça, vous avez le droit de le faire. Rapidement, la question 91 de la louange de Dieu. Une petite question, je passe vite parce qu'il n'y a rien de particulier et particulièrement difficile là-dedans. Donc, sur la nécessité de louer Dieu par des paroles et par des chants. C'est tout le rôle de la prière. Devons-nous louer Dieu par nos paroles, demande saint Thomas. Il est évident qu'il faut le faire. Saint Thomas va citer le roi David : mes lèvres vous loueront, Seigneur, dans des transports de joie. Le sacrifice de louange m'honorera, dit le Seigneur, et c'est par lui que je ferai voir le salut qui vient de Dieu. Donc l'Église a toujours, justement par ses prières, par ses chants, par la liturgie, organisé en quelque sorte la louange officielle de Dieu. La prière de la Sainte Messe est une louange à Dieu. N'oublions pas qu'une des fins de la Messe, c'est la fin d'adoration, la fin, ce qu'on appelle la fin latrotique. Également la fin eucharistique, c'est-à-dire la fin d'action de grâce. Ce sont des louanges que nous faisons à Dieu. Donc, la meilleure, peut-être la plus belle façon de louer Dieu, c'est par les paroles de la Sainte Messe. Il est incontestable, dit saint Thomas d'Aquin, que les chants pieux font pénétrer profondément dans nos cœurs les vérités divines et nous excitent à la dévotion, soit parce qu'on s'arrête plus longtemps sur les mots, soit parce que les affections de notre âme, avec leurs nuances variées, se retrouve par une sorte de sympathie secrète dans les modulations des voix. Si quelques-uns ne comprennent pas toujours les paroles que l'on chante, ils comprennent néanmoins que l'on chante pour louer Dieu, et cela seul les excite à la dévotion. Donc il est parfaitement légitime d'avoir par le chant de louer le bon Dieu, d'avoir par le chant des psaumes. Quand on dit le bréviaire, par exemple, quand on chante les bréviaires, vous chantez un dimanche dans une paroisse ou dans une chapelle, on chante par exemple les vêpres. Bon, c'est une louange officielle de Dieu. On chante les complis. Bon, ce sont des louanges de Dieu. Les chants, par exemple, qui accompagnent la bénédiction du Très-Saint-Sacrement sont des louanges faites à Dieu. C'est absolument évident. Donc, il n'est pas du tout mauvais d'avoir en soi des chants, même dans la langue vernaculaire, pour chanter après la messe. C'est même une très bonne chose. De même dans les processions, qu'il y ait ces chants. L'un qui a fait un travail extraordinaire dans ce domaine, c'est le grand apôtre de la Vendée, Saint-Louis-Marie Guillon de Montfort. Donc, pour ceux que ça intéresse, il a fait des chants magnifiques. Certains sont très connus, des chants magnifiques sur des paroles faites justement écrites par Saint Louis-Marie Grun de Montfort, qui faisait chanter à ces Vendéens, et c'est en grande partie grâce au travail de préparation de Saint Louis-Marie Grillon de Montfort que la guerre de Vendée a pu éclater en donnant la force à tous ces Vendéens de se battre pour leur Dieu et pour leur roi. Alors, question 92, donc c'est une question simple, d'introduction à une autre partie de ce traité sur la vertu de religion. Question 92, des vices opposés à la religion et d'abord de la superstition. Donc, Saint Thomas place la superstition dans les vices opposés à la vertu de religion, en fait. On retrouve la même chose dans le catéchisme de Saint Pédis. Dans le catéchisme de Saint Pédis, quand Saint Pédis parle des péchés contre le premier commandement, il fait la liste justement de ces péchés contre le premier commandement. Il va parler du sacrilège, de l'idolâtrie, de la superstition et de l'ignorance coupable des vérités de la foi. Quatre choses. Mais il met dans sa liste la superstition. Bon, la superstition, c'est quoi? C'est rendre un culte divin à qui il n'est pas dû ou comme il ne faut pas le rendre. Donc il y a différents degrés de superstition. Certaines superstitions ne sont pas des péchés dans le sens que ce sont un peu des coutumes, si vous voulez, des espèces de remèdes de vieilles bonnes femmes qui ne sont pas en soi des péchés. Bon, par exemple, quelqu'un me dit « Ah, moi, je passe pas sous une échelle parce que ça porte malheur. Bon, est-ce que c'est un péché ?» Non, ce n'est pas un péché en tant que tel, parce que la matière est vraiment triviale, n'est pas importante. D'accord ? Bon, maintenant, attention, la superstition peut être devenir extrêmement dangereuse parce qu'elle travaille en nous troubles, elle travaille dans des domaines troubles et le démon aime les eaux troubles. Et donc, saint Thomas d'Aquin va expliquer que puisque la superstition, par la superstition, je rends le culte divin à qui il n'est pas dû, comme il ne faut pas le rendre, il y a donc quatre espèces de superstitions. Le culte illégitime, l'idolâtrie, la divination et les vaines observances. Donc, par cette question 92, il introduit en quelque sorte donc quatre chapitres. Premier chapitre, question 93, sur le culte illégitime. Deuxième chapitre, question 94, sur l'idolâtrie. Troisième chapitre, question 95, sur la divination. Et ensuite, le quatrième chapitre, sur les vaines observances, question 96. Donc nous allons avancer dans ces quatre questions pour justement mieux comprendre les péchés maintenant qui vont contre la vertu de religion. C'est ce dont va parler saint Thomas d'Aquin, suivant toujours la même formule, c'est-à-dire le même ordre. Donc il examine la vertu en question, et puis après l'avoir décortiqué, l'avoir expliqué, il va parler des péchés contre cette même vertu. Alors, du culte illégitime. Alors, qu'est-ce que c'est que le culte illégitime? Saint Thomas d'Aquin va expliquer, une question courte, il n'y a que deux articles. Le culte illégitime, explique-t-il, est pernicieux ou simplement superflu. Tout culte qui exprime des faussetés, dit-il, est un culte pernicieux. Ce serait donc exprimer le faux que de pratiquer les cérémonies de l'ancienne loi, par exemple des Juifs, qui représentaient comme futur les mystères du Christ. Donc imaginez que vous participiez à un culte envers Dieu, mais dans une synagogue, par exemple, synagogue juive, ce serait un péché gravissime. Pourquoi? Parce que en acceptant de participer à une prière juive dans une synagogue, vous participez à ce qu'on appelle une communication sacrée, une communication dans les choses sacrées avec des hérétiques. Vous participez indirectement à la foi de ces gens-là. Or, les Juifs ne croient pas en notre Seigneur Jésus-Christ. Plus exactement, ils ne croient pas que notre Seigneur Jésus-Christ, qui est venu sur la terre il y a 2000 ans et qui est mort sur la croix le vendredi saint, ils ne croient pas que notre Seigneur Jésus-Christ était Dieu. Donc ils nient la personne de notre Seigneur Jésus-Christ parce qu'ils ne croyaient pas qu'il était Dieu. Ils l'ont condamné à mort, ils l'ont crucifié. Alors, saint Thomas va expliquer. Aujourd'hui, par exemple, sous la Nouvelle Alliance, où les mystères du Christ sont accomplis, ce serait exprimer le faux que de pratiquer les cérémonies de l'ancienne loi qui représentaient comme futurs les mystères du Christ. Elle équivaudrait à proclamer de vive voix que le Christ doit souffrir. Donc, si l'on attend le Christ à venir, ça veut dire qu'on nie que le Christ qui est passé chez nous, parmi nous, pendant 33 ans, depuis l'incarnation le 25 mars jusqu'à sa mort sur la croix le vendredi saint. Donc c'est de dire que cette personne qui est adorée par l'Église catholique n'était en fait pas Dieu puisqu'il n'est pas encore venu. D'accord? Donc faire attention à ces choses-là et par exemple ne pas raconter des bêtises en disant mais nous attendons la seconde venue du Christ. On attend la venue du Christ à la fin des temps. Mais avant la fin des temps et la venue terminale du Christ sur les nuées du ciel avec les apôtres pour juger les vivants et les morts, il n'y aura pas d'autre venue du Christ. Donc saint Thomas, ensuite, se pose la question, article 2 de la question 93, peut-il y avoir quelque chose de superflu dans le culte du vrai Dieu? Et voilà ce qu'il dit. La fin du culte divin, c'est que l'homme glorifie Dieu en lui soumettant son esprit et son corps. Mais, dit-il, si on mêle au culte divin des pratiques qui n'honorent pas Dieu, qui n'élèvent pas l'âme vers le ciel, ou qui ne répriment pas les mouvements désordonnés de la concupiscence, si on agit contre ce qui a été établi par Dieu lui-même et par l'Église, c'est une superfluité superstitieuse. Donc là, on peut facilement tomber dans la superstition. C'est-à-dire en rendant un culte divin à qui il n'est pas dû ou comme il ne faut pas le rendre. Il peut y avoir des superstitions et des choses sacrées. Superstitions, par exemple, dans l'usage de certains sacramentaux, par exemple, l'usage de certains cierges bénis, mais d'une façon qui n'est plus digne de notre Seigneur Jésus-Christ. En ne suivant pas les coutumes de l'Église catholique. Il est important de suivre aussi les coutumes de l'Église catholique, c'est donc de rendre le culte divin en suivant les coutumes traditionnelles de l'Église catholique. Donc, saint Thomas va expliquer, dans la mesure où le cœur de l'homme s'élève vers Dieu par la louange divine, il s'éloigne de tout ce qui lui est contraire. La louange qui exprime nos lèvres est inutile à celui qui la donne si elle n'est pas accompagnée de la louange du cœur. Car il dit à Dieu sa louange lorsqu'il médite ses merveilles. Il est indigne celui qui célèbre les divins mystères sans se conformer à la tradition reçue du Christ. Donc suivons les traditions de notre Seigneur Jésus-Christ et de son Église. Vous avez ce texte que je viens de vous lire à la page 104, au milieu de la page 104 sur le polycopier. Alors, voyons maintenant la deuxième espèce de superstition, l'idolâtrie. Alors ça, c'est évident que c'est un point extrêmement important, c'est la question 94. Donc, vous avez le développement de cette question 94 dans son article 3, en bas de la page 104 sur le polycopier. Donc saint Thomas d'Aquin va expliquer ce qu'est l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est tout simplement rendre un culte divin à quelqu'un qui n'est pas Dieu, un faux Dieu. Donc c'est une certaine forme de superstition. La superstition étant le fait de rendre un culte divin à qui il n'est pas dû, donc l'idolâtrie qui rend un culte à un faux Dieu, un culte divin à un faux Dieu, fait partie de la superstition. On tombe, dit saint Thomas, dans la superstition, toutes les fois que l'on dépasse la mesure propre au culte divin, on la dépasse principalement en rendant à la créature le culte qui n'est dû qu'à Dieu. Bon, saint Thomas explique que l'idolâtrie, une espèce de superstition, est un péché donc très grave dont la cause est dans l'homme et dans les démons. Donc c'est l'homme ou les démons qui vont pousser l'homme à rendre un culte soit à un faux dieu, ou un culte au véritable Dieu, mais de façon indue, de façon qui n'est pas raisonnable. Je vous lis ici le paragraphe de saint Thomas d'Aquin. Donc, il dit, on dépasse la mesure propre au culte divin en rendant à la créature le culte qui n'est dû qu'à Dieu. Ce que faisaient les païens qui accordaient les honneurs divins, non seulement aux créatures visibles, mais encore à des créatures représentées par des figures auxquelles on donnait le nom d'idole. Les Romains, par exemple, adoraient leurs empereurs, considéraient que l'empereur était Dieu. Donc saint Thomas, l'article 2 de la question 94, se pose la question de savoir si l'idolâtrie est un péché. Donc saint Thomas va citer le livre de l'Exode dans l'Ancien Testament, « Vous n'adorerez pas les idoles et vous ne les honorerez pas. » C'est donc un péché de rendre un culte aux idoles. L'idole, c'est un faux dieu. Alors, il y a un proverbe qui dit, on cite souvent en français comme cela, en disant « L'homme ne peut pas vivre sans idole. » Dire, l'homme ne peut pas vivre sans adorer quelque chose ou quelqu'un. Soit il va adorer le vrai Dieu, c'est le catholicisme, soit il va adorer un faux Dieu. L'homme a besoin d'adorer quelque chose, d'adorer quelqu'un plus directement. Donc soit il se met à genoux devant notre Seigneur Jésus-Christ pour adorer le vrai Dieu, soit il va se mettre à genoux devant le démon en prétendant que le démon a un pouvoir divin. Et donc cette adoration dû à Dieu seul, c'est ce qu'on appelle le culte de l'atrie. J'ai déjà parlé de ça auparavant. Nous devons à Dieu, dit saint Thomas, qui surpasse toutes les créatures, bien entendu, puisqu'il est le créateur lui-même. Nous devons à Dieu des hommages particuliers que l'on appelle le culte de l'atrie. Ce culte de l'atrie est représenté dans l'Ancien Testament par les sacrifices, aujourd'hui surtout par le sacrifice par excellence qui est le sacrifice de la Sainte Messe. Alors, une objection qu'on nous fait très souvent, c'est les protestants surtout qui nous font cette objection, mais vous adorez la Sainte Vierge, vous adorez les images des saints. Totalement faux, l'Église n'a jamais adoré la Sainte Vierge, n'a jamais adoré les images des saints. L'Église vénère la Très Sainte Vierge Marie et vénère les saints, ce qu'on appelle le culte de Dully et d'Hyperdully concernant la Très Sainte Vierge Marie. Les images n'ont jamais été exposées dans l'ancienne loi dans les églises pour recevoir le culte de l'atrie. Elles ont pour but d'imprimer, de confirmer en nous, par leur signification, la foi, l'excellence des anges et des saints. Donc une belle image de la Très Sainte Vierge Marie nous pousse à vénérer la Très Sainte Vierge Marie comme notre mère. Le crucifix au-dessus de l'autel nous aide à comprendre que notre Seigneur Jésus-Christ, nous rappeler que notre Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix. C'est pour ça que notre Seigneur Jésus-Christ étant directement représenté par la croix, eh bien on porte une adoration à l'égard de la croix. C'est pour ça que le jour du Vendredi Saint, la cérémonie liturgique du Vendredi Saint dans l'après-midi, il y a ce qu'on appelle l'adoration de la croix. Donc saint Thomas va se poser la question à l'article 3, à page 401, l'idolâtrie est-elle le plus grand des péchés? Donc vous avez ce texte aussi sur le polycopier à la page 104, en bas de la page. Donc nous allons expliquer cet article qui est assez important. Donc je vais essayer de bien expliquer autant que faire se peut. Alors, que je m'y retrouve, donc on est à la page 104 et page 105 du polycopier sur la somme théologique de saint Thomas d'Aquin. Donc, l'idolâtrie est-elle le plus grave des péchés? Donc, voilà ce que va dire saint Thomas. Considère-t-on les péchés en eux-mêmes? Sous ce rapport, l'idolâtrie est le plus grave de tous. quoi? Le plus grand de tous, parce que le plus grave des péchés contre Dieu est de déférer à la créature les honneurs divins, car c'est introduire autant qu'il est en soi un autre Dieu dans le monde. C'est donc l'adoration d'un faux Dieu. En donnant les honneurs divins à quelqu'un qui n'est pas Dieu, on adore un faux Dieu. Considère-t-on au contraire la gravité des péchés du côté du pécheur, comme quand on dit que l'homme qui fait le mal sciemment pêche plus grièvement que celui qui agit par ignorance. À ce point de vue, les hérétiques qui corrompent sciemment la foi reçue par eux pêchent plus grièvement qu'un idolâtre ignorant. Un hérétique, les hérétiques, si vous voulez, dans bien des cas, sont des gens qui ont une certaine connaissance du vrai Dieu et qui sciemment pêchent contre ce vrai Dieu. Donc un idolâtre complet, c'est quelqu'un qui n'a aucune connaissance du vrai Dieu en général. Donc les hérétiques qui corrompent sciemment la foi reçue par eux pêchent plus grièvement qu'un idolâtre ignorant. Rien n'empêche en ce sens-là, dit saint Thomas, que d'autres péchés encore ne soient plus graves que l'idolâtrie à raison d'un plus grand mépris dans l'homme. Bon. Alors attention, l'idolâtrie présuppose l'infidélité. Pour que l'idolâtrie soit pécamineuse, il faut qu'il y ait l'infidélité. Sinon, peut être une idolâtrie purement matérielle. Vous adorez notre Seigneur Jésus-Christ dans le tabernacle de l'autel parce que vous pensez que notre Seigneur Jésus-Christ est là et il n'est pas là. Parce qu'il y a faute. Non, parce que vous ne l'avez pas fait exprès. Vous pensez que notre Seigneur Jésus-Christ était dans l'autel, et, au tabernacle, et puis il n'y est pas. Bon. Parce que le prêtre a enlevé la présence réelle, vous ne le saviez pas, ou tout simplement parce que c'est la nouvelle messe qui a été célébrée et qu'il n'y a pas de présence réelle. Bon, c'est pas de votre faute, à ce moment-là, de faire un acte d'adoration, alors que vous croyez qu'il y a présence réelle, si en fait il n'y a pas de présence réelle. Donc, quoi qu'il en soit, l'idolâtrie, donc, dit saint Thomas, présuppose l'infidélité. Elle y ajoute le culte illégitime et un blasphème contre Dieu, à qui elle refuse l'unité du domaine suprême. Donc, au temps de saint Thomas, donc, il considérait que l'hérésie des cathares, des manichéens, était la plus horrible de toutes les idolâtries. Les cathares, les albigeois, les manichéens, c'est la même chose, c'est la même hérésie en fait. Donc, une hérésie qui a été contre laquelle saint Augustin s'est beaucoup battu. Le manichéisme, si vous voulez, c'est la croyance qu'il y a en quelque sorte deux dieux, le dieu du bien, le dieu du mal. Le Dieu du bien, c'est le Dieu de l'esprit. Le Dieu du mal, c'est le Dieu du corps, le Dieu matériel, des choses matérielles. Donc le corps est mauvais. Eh bien, le corps n'est pas mauvais. Le corps uni à l'âme, pour faire un homme, la nature humaine est faite composée d'un corps et d'une âme. Le fait d'avoir un corps n'est pas quelque chose de mauvais, contrairement à ce que disent les cathares. Alors, en bas de la page 104, donc vous avez quelques explications, encore une fois là-dessus. Je vous répète ces choses-là. D'après saint Paul, dit saint Thomas, donc c'est un texte de saint Paul aux Romains, chapitre 1, verset 23, que j'ai déjà cité. Le péché d'idolâtrie fut suivi comme d'un châtiment par le péché contre nature. N'oublions jamais ça. Une des conséquences directes du péché d'idolâtrie par lequel j'adore un faux Dieu, c'est de tomber dans les péchés contre nature, contre la sodomie. Donc la sodomie est pratiquement toujours une punition du bon Dieu pour ceux qui tombent dans l'idolâtrie. Ainsi en va-t-il, dit saint Thomas, des péchés contre Dieu. Ce sont les plus graves de tous, et pourtant, parmi eux, il y en a une gravité suprême, c'est celui qui consiste à rendre à une créature les honneurs divins. Qui fait cela, dresse dans le monde un autre Dieu, porte atteinte autant qu'il est en lui à la souveraineté de son empire. On le voit très bien aujourd'hui dans l'église de Vatican II. Il est évident pour moi que l'église de Vatican II adore un faux Dieu. Qui est ce faux Dieu adoré par l'église de Vatican II? C'est tout simplement l'homme. L'église de Vatican II rend un culte à l'homme qui est divinisé et qui est mis au rang de Dieu. Vous deviendrez comme des dieux. C'est le mensonge du démon à Adam et Ève. Donc, à regarder le péché tel qu'il est commis par le péché, nous dirons donc, dit saint Thomas, que celui qui agit sciemment pêche plus gravement que celui qui pêche par ignorance. Donc, celui qui pêche par ignorance de bonne foi, ce qu'on appelle un péché matériel. Aussi, ainsi, rien n'empêche que le péché des hérétiques qui corrompent seulement la foi qu'ils ont embrassée soit plus grave que celui des idolâtres qui pêchent dans l'ignorance de la vérité. De même, d'autres péchés pourront être plus graves par le fait d'un mépris plus grand chez le pécheur. Alors là, une phrase très importante, dont je l'ai mis en caractère gras en bas de la page 104 sur le polycopier. L'idolâtrie, j'explique, inclut un grand blasphème, car elle soustrait à Dieu le caractère unique de sa seigneurie, de son domaine suprême. L'homme qui, par idolâtrie, renverse l'ordre en s'attaquant à l'honneur divin, subit ainsi, par le fait du péché contre nature, la honte de voir sa propre dégradation. Pour cela que Saint Paul enseigne bien dans son épître aux Romains, premier chapitre 1er, que le péché contre nature, de sodomie, péché qui crie vengeance contre le ciel, eh bien, l'Église catholique dit que c'est une conséquence directe de l'idolâtrie, l'adoration d'un faux Dieu. C'est un péché très fréquent, beaucoup plus fréquent qu'on ne le croit, l'idolâtrie. Il y a des tas de gens qui adorent, qui peuvent adorer leur ordinateur, leur voiture, leur épouse, leur époux, leur enfant, leur chien ou leur chat. Si dans la pratique on fait passer notre ordinateur avant le bon Dieu, on élève l'ordinateur a un rang divin, on donne à l'ordinateur un pouvoir divin. Si vous faites passer une personne que vous aimez tendrement, qui peut être votre épouse ou votre époux, avant le bon Dieu, c'est de l'idolâtrie. Attention. Donc en haut de la page 105, vous avez une autre phrase importante de saint Thomas d'Aquin, donc page 105 sur le polycopier. La loi réprouve au plus haut degré l'erreur et l'idolâtrie, car le pire des crimes est de rendre à la créature l'honneur dû au Créateur. Les frivolités sur les lèvres d'un prêtre sont sacrilèges ou blasphèmes. Pourquoi ? Parce que le prêtre est le représentant officiel de notre Seigneur Jésus-Christ. Il agit dans la personne du Christ. L'Église n'inflige pas la mort corporelle, mais la remplace par l'excommunication. Dans des cas comme ça, l'excommunication, c'est quoi ? C'est justement le châtiment, si vous voulez, qui peut-être dans bien des cas, châtiment de l'idolâtrie. L'idolâtrie est un péché tellement grave que l'Église, très souvent, donne une peine d'excommunication aux idolâtres. Alors, saint Thomas, pour terminer cette question numéro 94, se pose la question de savoir si l'idolâtrie a sa cause dans l'homme. Je vais terminer au moins cette question-là, question 94, donc article 4. Et voilà ce qu'il répond. Donc, c'est une question très importante, parce que c'est un article très important, car saint Thomas va essayer de trouver la cause de l'idolâtrie. J'adore un faux Dieu, pourquoi ? D'où ça vient ? Bon. La cause dispositive de l'idolâtrie, dit-il, a été dans l'homme. D'abord, trois choses y ont contribué. D'abord, le dérèglement des affections. Quand je laisse les passions de mon âme tourner à 100 à l'heure sans chercher à les contrôler par la volonté, par l'intelligence, eh bien, j'introduis un dérèglement au niveau des affections. Et ce dérèglement au niveau des affections va pousser à l'idolâtrie. Saint Thomas donne un exemple qui est dans le livre de la Sagesse, au chapitre 14, d'un père qui emploie une vive douleur, a fait faire l'image d'un fils que la mort lui avait ravi prématurément. Il commença à l'adorer comme un dieu. Les Romains faisaient la même chose avec leurs empereurs. Deuxième raison, deuxième cause de l'idolâtrie, l'amour naturel des hommes pour les statues et les tableaux, dit-il. On voit très bien ça, par exemple, chez les Juifs de l'Ancien Testament, une tendance très nette à l'idolâtrie, notamment dans la traversée du désert. Donc tous les hommes, les peuples juifs qui a quitté l'Égypte, le peuple juif qui a quitté l'Égypte, qui va vers la terre promise après avoir traversé miraculeusement la mer Rouge, eh bien ce peuple juif va tomber très souvent dans l'idolâtrie. Rappelez-vous par exemple le passage du veau d'or où Aaron, le frère de Moïse, va récupérer tout l'or des Juifs
pour en faire un faux Dieu.
Il leur donnait un faux Dieu pour qu'ils aient quelque chose à adorer. Donc, je répète ce que dit saint Thomas à l'article 4 de la question 94. Donc, l'idolâtrie peut être provoquée par le dérèglement des affections, par l'amour naturel des hommes pour les statues et les tableaux, et par l'ignorance du vrai Dieu. Donc, ne considérant point l'excellence des perfections divines, les païens ravissaient à l'être suprême les honneurs souverains pour les déférer à certaines créatures dont ils admiraient la beauté et la vertu. Donc, ils ne reconnurent pas l'ouvrier à la vue de ses ouvrages, et ils regardèrent comme des dieux le feu, le vent, les étoiles, le soleil ou la lune. Mais aujourd'hui, on n'est pas plus doué. On adore plus sans doute les étoiles, le soleil ou la lune, mais on adore son ordinateur, c'est pas mieux. Il est évident que derrière le péché de l'idolâtrie, il y a le démon. Hein. Le démon, déteste l'adoration du vrai Dieu, il va tout faire pour se faire adorer en prétendant qu'on adore le vrai Dieu. Et saint Thomas conclut son article sur sa question numéro 94 par cette phrase de David, du roi David: tous les dieux des gentils sont des démons. Donc les démons sont la cause, si vous voulez, la cause efficiente, instrumentale, on peut dire, de l'idolâtrie, parce que c'est eux qui poussent à l'adoration d'un faux Dieu. Et rappelez-vous cette phrase très importante: tous les dieux des gentils sont des démons. Tous. Il y a tous les dieux de ceux qui ne sont pas catholiques sont des démons. Donc tous les dieux, hors l'unique vrai Dieu, sont des démons. Ça, il ne faut pas oublier ça. Pas oublier qu'il n'y a qu'un seul Dieu, qu'une seule Église, et en dehors de cette seule Église, en dehors de cet unique vrai Dieu, il n'y a pas de salut. Personne ne peut être sauvé en dehors du vrai Dieu. Donc on ne peut pas penser que les bouddhistes sont sauvés par Bouddha, les musulmans par Allah, et les protestants par Martin Luther. Non, il n'y a qu'un seul Dieu. Alors nous allons arrêter là, nous verrons, si Dieu veut, la prochaine fois, la question 95 sur la divination. Donc nous allons terminer par une prière. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils, du Saint-Esprit, ainsi soit-il.